RTL, il est 9h.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Et c'est avec grand plaisir que je salue notre invité Jean Tellet, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez pour la première fois un recueil de nouvelles intitulé « Comme une respiration ». On en parle dans un instant avec Bernard Lehu. Et vous dédicacerez des exemplaires pour nos auditeurs que nous offrirons au 3210. Nous irons aussi à Deauville où les exploitants du cinéma français sont réunis en congrès. Stéphane Boutsock est sur place. Il a pu découvrir en avant-première des images des films à venir, notamment du Valérian de Luc Besson. Besson qui a annoncé un taxi 5. Et puis le fameux festival des vieilles charrues fêtera ses 25 ans demain à New York, le temps d'un concert exceptionnel avec notamment Mathieu Chédid. Une formidable réussite pour ce festival né dans un champ au cœur de la Bretagne. On rejoindra notre correspondant Philippe Corbet sur place à Manhattan.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Jean Tellet, avant de parler de votre nouveau livre « Comme une respiration » et de ses 40 histoires, hein, courtes avec Bernard Lehu, dites-nous quelle est à titre personnel votre respiration préférée, celle qui vous est indispensable, que vous pratiquez le plus souvent.
Tous les jours d'une manière... je sais pas trop en fait.
À quel moment vous mettez entre parenthèses dans votre tête
J'essaye de le faire au moment de dormir, mais là en ce moment, comme je suis en pleine sortie de livre et tout, donc c'est un peu sportif. Ça demande une pression, donc j'ai un petit peu de mal à m'endormir, mais je vais pas m'en plaindre. Il y a tellement d'écrivains, quand ils sortent leur livre, tout le monde s'en branle, que je vais pas commencer à pleurnicher parce que je fais plein de choses.
En effet, ça me semble raisonnable. Alors Bernard, je le disais en titre, Jean Tellet, c'est une première, hein, l'exercice de la nouvelle avec ce recueil intitulé « Comme une respiration » et qui est publié donc chez Julliard.
Mais oui, 40 nouvelles, 40 textes tour à tour poétiques, farfelus, émouvants, 40 grandes petites histoires, mais oui, car elles en disent long sur la vie d'aujourd'hui. Alors vous aviez pris l'habitude ces dernières années de nous raconter l'histoire de France, le Montespan, Charles IX ou Héloïse et Abélard dans votre style si personnel. Jean Tellet, pourquoi ce brusque changement de genre? Qu'est-ce qui vous arrive ?
J'en avais marre de raconter des horreurs parce que je trouve que là, dans les actualités, il y en a quand même
suffisance.
Pas mal. Voilà, exactement. Et je pensais par exemple à vous ce matin, Yves, en venant, je me disais que vous savez tous les matins quand vous vous levez qu'à votre travail, vous allez prononcer le mot mort. Et je pense qu'aujourd'hui, vous aussi, ce matin, vous avez dû le prononcer. Et donc, on vit là-dedans. Et puis moi, j'avais raconté donc les trucs sur la Saint-Barthélemy, un mec qui se fait bouffer dans un village, un autre qui se fait couper les couilles, une tueuse bretonne qui zigouille tout le monde. Au bout d'un moment, j'en avais ma claque. Et j'avais envie de raconter, d'aller voir du côté des belles choses de la vie. Et j'avais envie de rencontrer des gens d'aujourd'hui. Et mon éditeur me dit, t'es marrant parce que toi, quand t'es déçu par l'humanité, tu vas voir les gens. Et parce que les gens, ils sont en fait formidables. Quand on les prend individuellement et tout, ils sont pleins de ressources, ils sauvent leur peau comme ils peuvent et tout, c'est assez magnifique.
Alors si je comprends bien, ce livre, ça n'est pas vous qui l'avez écrit alors. C'est un livre des gens.
Oui, ce sont que des histoires vraies.
Et, toutes
les histoires vraies. Il n'y en a pas une d'inventée. Et avec des histoires avec des enfants, des jeunes gens, des personnes âgées. Et je demandais à tous ces gens-là, est-ce que vous êtes retrouvés à un moment dans votre vie, dans une situation où quelque chose va vraiment pas bien, mais où à la fin, waouh, on respire. Et je me dis que la période en ce moment est tellement étouffante que j'ai l'impression qu'on a besoin d'un bol d'air et donc c'est ce que je propose.
Votre troupe de musiciens vraisemblables qui partent pour faire un voyage low cost, ils ont mis leurs 6 couches de vêtements les uns sur les autres.
Exactement.
Pour pouvoir prendre l'avion.
Exactement. Et oui, c'est ça, parce qu'ils prenaient un avion low cost et on a droit qu'à un seul bagage. Ils allaient faire un spectacle. Il y avait un danseur qui avait plein de vêtements.
C'est plus, à pleurer de rire.
Plus des instruments de musique. Ouais. Ils ne pouvaient pas avoir les deux bagages et tous ses copains se sont habillés avec ses vêtements.
Transformés en bibindome.
Voilà,
il y avait toutes les couches de vêtements.
Voilà. J'avais envie de raconter des histoires solidaires comme ça.
Mais comment les avez-vous collectées justement, ces histoires positives et qui nous donnent une vision de l'humanité qui fait du bien,
en fait. Je me balade beaucoup en province pour faire des dédicaces dans les librairies ou dans des salons du livre et je demandais aux gens, presque à tous les gens que je rencontrais, est-ce que vous avez une histoire, et puis toutes celles qui me semblaient bien, je les ramassais. Comme par exemple, j'ai appris, il y a une histoire qui s'appelle Lui, d'un petit garçon de 9 ans qui découvre son prénom à 9 ans. Ouais. Un gamin qui a eu des problèmes psychiatriques, qui se trouve dans une école comme ça en insertion et tout. Et tout le monde l'a toujours appelé débilos, neuneu, gogol, lui, toi. Mm. Et le môme arrive à 9 ans, il ne sait pas son prénom. Et un jour, il y a une dame qui, qui décide de lui faire apprendre son prénom. Et il l'apprend. Et alors là, il est le champion du monde des enfants qui connaissent leur prénom. Et c'est une victoire. Et voilà, c'est des respirations comme ça que j'avais envie de raconter.
Mais c'est ça qui est formidable, c'est que ça part souvent de presque rien, d'une scène, d'une toute petite chose. Et puis finalement, ce sont des histoires qui nous disent beaucoup de la vie. Il y en a une, j'aime bien aussi, je crois que c'est la deuxième, oui. Dans le cueil de nouvelles. C'est Gare Saint-Lazare.
Et elle bouscule tous
nos préjugés.
Un jour, j'étais en dédicace à Rouen, il y avait plein de monde, donc du coup, j'ai dû prendre le dernier train. J'étais tout seul dans un compartiment de première, sauf une fille qui était de l'autre côté de l'allée, une fille de 19 ans à peu près, avec une grosse valise orange. À Mantes-la-Jolie, monte 4 mecs, mais des caricatures de trucs de banlieue, comme on imagine. Les mecs arrivent, commencent à mater la fille et tout. Ils avaient Booba sur une épaule, comme ça, qui chantait, qui gueulait des trucs. Donc, je suis dangereux, oui. Qu'est-ce que tu veux dire par dangereux et tout. Et puis, ils commencent à mater la fille, à dire des conneries, puis ils se lèvent les uns après les autres, tous en se remontant les couilles quand il se passe rien. Moi, j'assiste à ça, j'ai dit, putain, ça va tourner au fait divers, cette histoire. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je peux pas laisser une fille se faire violer, moi, je peux plus dormir de la vie.
Vous êtes seul avec ces jeunes gens et cette jeune fille.
Et je me dis, il faut que j'intervienne. Mais les quatre mecs, ils sont beaucoup plus jeunes que moi, ils ont 20 ans, ils sont taillés comme des athlètes. Je me dis, je vais me faire massacrer, quoi. Mais en même temps, j'ai pas le choix. Et je me dis, mais normalement, moi, j'étais censé rentrer chez moi tranquille, pas finir ni à l'hôpital, ni à l'Institut médico-légal du Quai de la Rabée. Et puis je me dis, alors qu'est-ce que je fais? Il doit y avoir un signal d'alarme, donc il faut que j'essaye de tirer le signal d'alarme. Ou bien peut-être qu'il y a un petit marteau quelque part, vous savez, pour les brise-huit. Et je prends le petit marteau, puis je leur rentre dedans. Mais forcément, ça va mal se passer. Et je me fais tous ces films-là, puis finalement, le train arrive à la gare Saint-Lazare, la fille traîne sa grosse valise à roulette, et les mecs se lèvent, et il y a un des mecs qui dit à la fille, tu veux que je descende ta valise? Il prend la valise, il fait, putain, elle est vachement lourde. Et la fille les regarde en disant, en tout cas, vous êtes gentils. Moi, je me dis, ils vont la suivre, ils vont l'emmerder. Pas du tout, il s'allume un pétard sur le quai, puis il la laisse partir. Et là, je me dis, à quoi je viens d'assister, ce n'est pas le monde qu'on nous raconte. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée, j'ai dit, et c'est là que je vais aller demander à des gens s'ils ont vécu des respirations, parce que moi, j'en ai vécu une à la gare Saint-Lazare, là, avec ça.
Alors, une autre respiration, une autre histoire, et là, je suis sûr, vous ne l'avez pas collectée auprès d'un de vos lecteurs ou de vos lectrices, que c'est une scène à laquelle vous avez assisté. Écoutez ça, ça va vous le rappeler.
Ah. Mais oui.
Petite fleur, c'est oui. Des déchettes.
Oui.
Allez, en quelques mots.
Dans mon quartier, il y a des musiciens qui jouent et tout. Puis un jour, je vois une dame qui revenait du marché, une petite mamie et tout. Puis elle pose son sac et puis elle se met à côté d'eux et elle se met à danser comme ça.
Sur le trottoir.
Ouais. Et je vais la voir. Je lui dis, mais vous dansiez bien, petite fleur et tout. Elle me dit, oui, mais ça me rappelle avec mon mari quand on était jeunes, on habitait à Saint-Germain. On allait sous terre dans les caves comme le Blue Note et tout ça et en dansant ça me rappelle mon amour et tout et c'est des voilà c'est
un
des
moments de grâce
des effleurements comme ça ouais de la vie faire voir que d'un côté il y a évidemment la laideur du monde dont vous parlez forcément tous les jours ici mais bon sang pendant ce temps-là il y a des trucs beaux tout comme par exemple en Bretagne j'ai vraiment vu un arbre un conifère de 800 ans qui donne des cerises. Et c'est comme un symbole de la vie. L'arbre, il est absolument gigantesque.
C'est les OGM, non ?
Et je ne sais pas comment est arrivée une graine de merisier là. Cet if protège le cerisier qui donne des cerises. Donc c'est ça les miracles de la vie.
Comme une respiration, c'est donc ce premier recueil de nouvelles signé Jean Tellet qui reste avec nous, il me paraît, chez Juilliard. Maintenant, nous allons passer à nos audiences de télévision d'hier soir avec Médiamétrie, avec vous Isabelle Morini-Bosque.
Eh bien, votre avis, c'est forcément La Vengeance aux yeux clairs qui est en tête avec 6 200 000 téléspectateurs sur TF1, 26% du public, ça en fera 1,5 million de plus sans doute après la télévision de rattrapage dans une semaine. En deuxième position, Envoyé spécial, 3 millions, il n'y a pas d'effet de curiosité pour le nouvel Envoyé spécial, 16% du public sur France 2. Et en troisième position, Esprit criminel sur M6, Unité sans frontières, 2 700 000, comme la semaine dernière et celle d'avant, 11% du public sur la 6. Et côté TNT, tiens, il y avait du foot sur W9, c'est en tête, c'était l'Europe League, c'est ça? Saint-Étienne, Anderlecht, 920 000 téléspectateurs.
Et la grande librairie?
La grande librairie. Alors, la grande librairie.
Écoutez,
vous y étiez hier soir.
Non, la grande librairie. Alors, je vais vous le dire. Bah, écoutez, moi, je voulais être délicate et passer ça. 341 000.
Alors, c'est déjà ça.
Mais comme vous dites.
La télévision, vous y avez été chroniqueur, hein, de mémoire, au moins dans l'assiette anglaise de Bernard Rapp, et puis aussi dans le Nulle part ailleurs. Hein,
Bernard Rapp, voilà, merveilleux Bernard Rapp.
Ah oui,
quel bonheur ça a été de travailler avec un type aussi intelligent, aussi classe. Ça, c'était un grand bonheur. Ça.
Vous avez définitivement tourné la page ou ça pourrait vous tenter ?
Non.
Je suis sûr qu'on vous sollicite encore.
Oui.
Mais pas d'adaptation ?
Pardon ?
Même pas d'adaptation télé ?
Ah si, plein. J'ai 7 livres qui ont été adaptés au cinéma. Il y en a qui sont adaptés en bande dessinée, en pièces de théâtre et tout. Non, ça se passera très bien.
On va marquer une pause, Jean Tellet, et puis dans quelques instants, on va refeuilleter ce livre et avec vous, reprendre des respirations.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Nous sommes toujours et avec grand plaisir en compagnie de Jean Tellet. Vous publiez Jean Tellet chez Julliard comme une respiration que l'on fera gagner dans quelques instants, dédicacée par vous-même parmi les 40 courtes histoires de votre recueil, celle qui est titrée « Une enveloppe a décidé de votre vie ».
Ah oui, moi j'étais en classe de 3e et j'étais un très mauvais élève, j'étais dernier de la classe et au conseil d'orientation, on me colle en mécanique auto. Je suis « Oh putain, mécanique auto !» Toute ma vie, je vais me prendre de l'huile de vidange sur la gueule. Alors j'en ai rien à foutre des moteurs. Le lendemain, j'arrive à l'école, on commençait par le cours de dessin et je faisais la tronche et le prof de dessin, il passe dans les allées comme ça et puis il me regarde et il me fait toi qui d'habitude a l'air joyeux et tout, t'en fais une gueule aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Oh bah hier, on m'a collé en mécanique auto. Et il me dit mais non, t'es plutôt bon en dessin, tu pourrais rentrer dans une école de dessin. Je lui dis mais ça existe, ça, une école de dessin, les écoles, on fait que dessiner. Il me dit oui. Il dit bon, on y entre sur concours, c'est très difficile, il y a 500 candidat, on prend que les 50 premiers, mais si tu bosses beaucoup, le coup est peut-être jouable, il faudra que tu prennes plein de cours du soir et tout, et là je lui dis bon, je prends conscience de ça, je lui dis ma mère est femme de ménage, mon père est ouvrier, ils n'ont pas l'argent pour payer, laissez tomber, je vais faire mécanique auto. Et là il me dit, ben non, moi je vais t'en donner des cours du soir, et tes parents n'auront rien à payer. Et il m'a fait bosser chez lui, et dessine ta main comme t'es droitier, dessine ta main gauche comme ça, et puis retourne ta main, commence et tout, et le bouquet de fleurs, et t'y vas, et la brillance sur le vase, fais-moi croire qu'elle est là, etc. Et tout. Et puis il me fait bosser. Un jour, j'arrive à l'école de la rue Madame, il y avait 500 membres dans la cour de mon âge, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hop, dehors, seul le 10e sera là, etc. Et je fais le concours, et putain, je m'y colle au concours. Et après, tous les jours, dans l'HLM où j'habitais avec mes parents, je demande si je peux aller descendre chercher le courrier. Et un jour, je vois une enveloppe où il y a écrit « École de la rue Madame ». Je prends l'enveloppe, je la déchire comme ça, avec le cœur qui bat et tout, je l'ouvre en deux, je vois des petits mots noirs auxquels je comprends rien, qui dansent, mais je vois en travers un gros coup de tampon où il y a écrit « admis ». Et là, je me dis « ça y est, là, je suis sauvé ». Ça a été la respiration de ma vie. Et je me dis « et ça, là, maintenant, c'est à moi de m'y coller. Et comment je vais m'y coller ?» Et je me disais, et à ce prof qui s'appelait Pierre Pillot, toute ma vie, je vais dire « voyez ça, tout ce qui m'arrive, tout ce que j'ai fait, c'est parce qu'un jour, j'ai rencontré un mec comme vous. » Et puis, malheureusement, la fin de l'histoire que je raconte pas dans le livre, c'est que 2-3 ans après, ce prof s'est suicidé. Ça a été une tristesse pour moi, où encore maintenant, il n'y a pas une semaine où je ne pense pas à ce monsieur à qui j'aurais voulu passer ma vie à lui dire merci, parce qu'il a été la respiration de ma vie.
Et alors, l'enveloppe, vous l'avez gardée ?
Oui, moi qui jette absolument tout, mais rentrer dans mon bureau, c'est vide. Et cette enveloppe, je n'ai jamais pu l'acheter.
Parce qu'un jour, j'ai trouvé
la clé de ma vie dans cette enveloppe grâce à un prof. Moi qui ai détesté l'école, c'est grâce à la personne la plus importante de ma vie.
Et elle est dans le livre comme une respiration, parce qu'on ne l'a pas encore dit, il y a des photos, des illustrations, des dessins, et il y a le fac-similé.
Voilà, exactement.
Cette fameuse enveloppe reçue un matin. Il y a d'autres photos pour une autre histoire, ces chevreuils à tribord. C'est incroyable, cette histoire.
Ça, c'est incroyable. Et je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Un ancien boucher qui s'appelle Le Lièvre a sauvé.
Il n'y a que vous pour dénicher des histoires.
Je vous jure que c'est vrai. Un ancien ancien boucher qui s'appelle Le Lièvre a sauvé un chevreuil en pleine mer. Et quand même, la vie est folle. C'était un chevreuil, c'était un jour de chasse au Cap Fréhel. Le chevreuil femelle, et on appelle ça une chevrette, était poursuivi par les chiens et tout. Les chasseurs armaient leurs fusils. Le chevreuil est complètement acculé et se jette à la mer. Et avec le courant, il partait vers Saint-Malo. Et le boucher a dit, mais c'est pas possible et tout. Et avec son petit bateau, il était derrière et en allant de tribord à bâbord, a ramené le chevreuil sur terre.
Alors, on vous offre comme une respiration dédicacée par Jean Tellet et publiée chez Julliard si vous répondez maintenant à la question que vous pose Bernard.
Eh bien, combien, je ne sais pas si on l'a dit suffisamment, mais combien y a-t-il d'histoires dans le recueil de Jean Tellet ? 40 ? Allez, on aide un peu. 40 ou 60 ? Vous avez une petite idée, Jean Tellet ?
Je l'ai lu, c'est pour ça.
C'est bien.
J'ai trouvé ça pas mal, moi, comme livre.
Il a lu son livre, il l'a écrit et il l'a lu, ce qui fait déjà deux choses que ne font pas tous les auteurs.
Exactement.
Réponse au 32-10. Jean Tellet, on vous garde. Dans un instant, nous irons à Deauville et même à New York. Élégant, non ?
Pas mal.
Voilà, on a tout préparé pour vous.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Jean Tellet. Il est 9h17.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
Nous vous emmenons maintenant, Jean Tellet, avec nos auditeurs. Retrouver Stéphane Boutsock en Normandie, à Deauville. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
Vous avez assisté à ce qu'on appelle la journée des distributeurs de cinéma. Je peux résumer l'affaire en disant que vous avez projeté, tout simplement, on vous a projeté les bandes-annonces des films de l'année qui vient.
C'est exactement ça. Plus de 250 bandes-annonces et extraits de Universal à Gaumont, en passant par Pathé, Sony, Disney. Ils étaient venus, ils étaient tous là. J'ai donc vu, avec les exploitants de salles, le programme ciné carrément de 2016-2017. La grosse sensation, elle est venue de Luc Besson, qui non seulement nous a présenté 6 minutes exclusives de Valérian, vous savez, son projet pharaonique de science-fiction, ça sortira l'été prochain, mais qui, au passage, a annoncé, on s'y attendait pas, le lancement d'un 5e épisode de la saga Taxi, avec au volant les équipe gagnante du film Pattaya, qui a fait un carton l'hiver dernier.
Bien. Alors, quels sont les grands autres moments que vous retenez de cette journée ?
Au rayon comédie, rock'n'roll de et avec Guillaume Canet, mais aussi Marion Cotillard ou Johnny Hallyday dans leur propre rôle. Ça parle des coulisses de la vie de star. Mm-hmm. Si j'étais un homme d'Audrey Dana avec elle-même et Christian Clavier, je vous dresse l'histoire. Une jeune femme se réveille avec un sexe d'homme à la place du sien. Vous voyez les gens ? Je peux vous
ça
dire
ça. Ça a l'air gratiné, oui.
Ça promet. Et puis, les toutes premières images de, et ça n'a aucun rapport avec ce qui précédait, Red Ding, le prochain film et avec Danny Boone, qui a enthousiasmé la salle. J'ai retrouvé un Danny heureux et soulagé juste après.
C'est même le premier public que j'ai. J'ai rien, parce que je suis même en fin de montage. Donc c'est la première fois que j'avais une réaction de 2000 personnes comme ça sur le film. Et ça s'annonce plutôt bien, quoi. Voilà. J'aime le fait d'avoir fait un film sur le groupe d'intervention du Raid, d'avoir fait une comédie là-dessus, tout en les mettant en valeur, en leur rendant hommage. Et voilà, c'est donc l'idée de cette femme fliquette du 16e arrondissement qui rêve d'action et qui se retrouve à réussir à rentrer au Raid, pas par ses capacités, mais parce que son papa est ministre de l'Intérieur et qu'il la pistonne sans qu'elle le sache. C'était un sujet super pour une comédie. Des quelques scènes qu'on a, le bout de scène qu'on a montré, et ça a beaucoup rigolé, donc je suis très content.
Red Ding sortira au cinéma le 1er février prochain.
Et côté grosse production, Stéphane, qu'est-ce qui nous attend ?
Alors, des images bluffantes de Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, d'après le roman de Pierre Lemaître. Tout commence demain, film d'Hugo Gélin avec Omar Sy en papa célibataire. Mm-hmm. Le fameux Dunkerque, la fraise guerrière signée Christopher Nolan, allié de Robert Zemeckis avec le tandem Brad Pitt, Marion Cotillard. Et puis, chez Disney, les images du dessin animé de fin d'année, ça s'appelle Vaiana. Ça nous embarquera pour Tahiti avec hier dans la salle. On peut les entendre, les danseuses et les musiciens polynésiens qui étaient là. Le film sort le 30 novembre. Et puis, je vais ajouter pour Jean Tellet qu'on a aussi vu la bande-annonce de Fleurs de tonnerre de Stéphanie Pilonka-Kerven avec Déborah François, qui joue le rôle de cette empoisonneuse bretonne. Eh ben Jean, je peux vous dire, ça donne franchement envie de voir la suite.
Ah, c'est gentil. Ouais, j'ai de la chance. Et Fleurs de tonnerre qui sort le 18 janvier. Et puis, il y a le Montespan qui va se faire avec Alexandre Aja. Et avec une production. Et en fin, que des acteurs. Ça sera tourné en langue anglaise avec que des acteurs. acteurs américains et anglais.
Vous êtes
un
gâté,
gros bordel.
Hein.
Ah ouais, je suis vraiment
gâté. Vous savez
gâté.
Quoi, langue anglaise, ça va nous permettre de partir après avoir remercié Stéphane directement à New York. Oui, on est d'une habileté
exceptionnelle. C'est un métier ou quoi?
Ça a été le vôtre, je le rappelle. Alors, bonjour Philippe Corbet.
Bonjour.
Demain soir, les vieilles charrues, et c'est pas une plaisanterie, qui font le plein chaque été à Carhaix, en Bretagne, s'exportent à Manhattan pour une nuit à Central Park. Ce sera leur 25e anniversaire.
Oui, ça a commencé en 1992 par une kermesse dans les champs avec chanteurs sur une remorque et lancée de bottes. Alors, si vous aviez dit dans les années 90 au directeur Jérôme Tréhorel qu'un jour ces vieilles charrues viendraient labourer la terre de Central Park ici, il vous aurait peut-être traité de Guinawek, comme on dit en breton. Il vous aurait pris pour un fou.
Ah, j'en aurais pas cru. Mais même là, on n'y croit pas encore réellement. On est en train de vraiment de peaufiner des détails pour que cet esprit, cette atmosphère vieille charrue, il transpire à Central Park et on va pas perdre nos valeurs parce qu'on a traversé l'Atlantique. Il y aura, je pense, quelques guanadus qui vont se balader sur le site, les drapeaux. Et puis artistiquement, on aura également Chris Men et Alem du breakbeat en breton.
Merci, comment puis,
ah bah musicalement, ils ont un micro, ils font des sons incroyables et en breton. Et puis il y a notre complice chouchou Mathieu Chédid qui est un vrai ami du festival et qui breton dans son cœur.
Mathieu Chédid en 2013 sur la scène de Carhaix. Demain soir, il y aura aussi de l'électro avec The Avener.
Et pour l'organisation, les vieilles charrues ont pu compter sur l'aide des Bretons de New York, hein?
Oui, en Centre-Bretagne, les vieilles charrues n'existeraient pas sans 6500 laboureurs bénévoles qui veulent faire fructifier leurs terres. Et ici, c'est le même esprit, c'est l'Association des Bretons de New York, coprésidée par Laurent Corbel, qui s'est mobilisée pour faire découvrir la Bretagne aux Américains.
Faire des fest-noz, c'est bien. Mais moi, je voulais montrer quelque chose d'autre, une autre image de la Bretagne. Les vieilles charrues, c'est une success story à l'américaine, quoi. Un truc qui démarre dans des champs au milieu de nulle part. Et 25 ans plus tard, c'est devenu le plus grand festival de France, un des plus grands d'Europe. Ça, c'est une success story incroyable. Et ils viennent jusqu'à Central Park. Moi, j'avais vraiment envie que les Américains connaissent cette histoire-là. Et on va avoir des crêpes comme on n'en trouve pas beaucoup à New York.
Un quart des 5000 places ont été achetées par les spectateurs qui ne sont pas français. Mmh. Et j'ai demandé au directeur général du festival s'il avait pensé traduire le nom Vieille Charrue en anglais.
On s'est posé plusieurs fois la question et j'aurais dit on va le traduire Vieille Charrue. On ne changera pas. D'ailleurs, demain, il y a un de l'équipe qui va avec sa caméra à Times Square et j'aurais dit vous filmez les gens, je veux qu'ils prononcent Vieille Charrue.
Pas facile à dire pour les Américains, vieille charrue, mais ça l'a pas empêché au fil des ans Springsteen, Pharrell Williams, Lou Reed, John Baez ou Bob Dylan de venir labourer les champs du Centre-Bretagne.
Et ben on a respiré un petit peu de ces terres de Bretagne dans Central Park et c'était bien agréable. Merci infiniment Philippe Corbet. Dans un instant, on va tout simplement se dire au revoir gentiment avec Jean Tellet et on vous fera des cadeaux. Vous saurez si vous avez gagné son livre de recueil « Comme une respiration » aux éditions Julliard.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Jean Tellet, on a passé un moment très agréable avec vous pendant cette demi-heure pour la publication de Commune Respiration aux éditions Julliard. Et pour le gagner dédicacé, nos auditeurs devaient nous appeler au 3210 pour nous dire combien il y avait d'histoires dans ce recueil. Alors 40 ou 60 ?
Moi, je connais la réponse, c'est 40.
Et ben voilà. Voilà. Vous venez de faire 40 heureux en direct sur RTL. Merci beaucoup d'être venu.
Oh, c'est moi qui vous remercie, vous avez été adorable. Merci beaucoup.
Merci à toute l'équipe et nous, on va retrouver celui qui est notre respiration tous les jours. Hein.